notre époque, en particulier dans l'Église, se pique de promouvoir le dialogue. C'est une bonne chose, certes, même si cela se traduit concrètement plus dans les mots que dans les actes. Rarement, avouons-le, le dialogue s'est montré aussi fragile sur la scène internationale. Quant au dialogue interreligieux, il peine à trouver ses marques, autant qu'à produire des résultats, de sorte que nombre de croyants grandissent dans un certain scepticisme. Et Jésus lui-même a rarement réussi dans le dialogue, du moins avec ses adversaires, comme un vrai dialogue. En particulier avec les pharisiens, les scribes, les sadducéens, qui passent leur temps à vouloir le condamner sans l'avoir entendu, et Jésus doit leur répondre de manière ferme et autoritaire, sans dialogue véritable. Or, le passage que nous venons d'entendre nous offre un exemple rare d'un dialogue réussi, un vrai dialogue, ou plutôt, nous verrons, un dialogue en passe de réussir. Jésus et le scribe, en effet, dialoguent vraiment et avec profit. C'est un cas tout à fait unique de dialogue fécond entre Jésus et un représentant du camp de ses adversaires. Il nous apporte donc hautement, pour apprendre l'art du dialogue, l'art évangélique du dialogue, de nous arrêter sur cette péricope et d'y saisir sur le vif à la fois comment Jésus est pour nous maître souverain dans l'art du dialogue, et le scribe un interlocuteur exemplaire sur le chemin vers la vérité. Commençons donc par le scribe. À l'inverse de tous ses congénères et de tous les pharisiens que nous présente l'Évangile, on voit qu'il est intérieurement attiré par les paroles de Jésus, secrètement attiré par ce qu'il a entendu de Jésus. Jésus vient de réfuter brillamment les sadducéens au sujet de la résurrection. Et alors que les autres pharisiens, qui approuvaient ce qu'avait dit Jésus, mais n'étaient pas contents que Jésus l'emporte quand même, ne se mettent pas à croire en Jésus et ne viennent pas vers lui. Lui, au contraire, ce scribe, après avoir entendu comment Jésus a bien raisonné, vient vers Jésus et il se met à l'interroger. Non pas pour le piéger, parce que d'ordinaire, quand les scribes discutent avec Jésus, c'est toujours pour le piéger. Là, il ne s'agit pas de piéger Jésus, il s'agit de se laisser instruire par lui. Voilà la marque de cette bonne volonté intérieure, cette marque d'un cœur honnêtement attiré par le bien et le vrai, qui ne se laisse pas enfermer dans des préjugés, qui ne croit pas déjà tout savoir, mais sous l'influence de la grâce s'ouvre à une question, une vraie question. Quel est, maître, le premier de tous les commandements ? Alors Jésus, en maître exemplaire du dialogue, ne lui répond pas en assénant des vérités brutales que le scribe ne pourrait pas comprendre et encore moins accepter. Jésus vient rejoindre le scribe là où il en est de son chemin spirituel. Or pour le scribe, qu'est-ce que c'est que la religion ? La religion, c'est d'abord affaire de commandement. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Pratiquement, concrètement. Alors Jésus lui répond sur le terrain des commandements. Écoute, et pour cela Jésus s'appuie sur l'Ancien Testament, sur les Écritures saintes que le scribe passe ses jours à méditer. D'abord le Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Cela, le scribe le récitait plusieurs fois par jour. C'est le Shema Israël. Puis Jésus s'appuie sur le Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus reste donc sur le terrain de l'interlocuteur, sans le brusquer. Il ne dit rien d'autre que ce que Moïse lui-même avait enseigné. Pourtant, le dialogue ne s'arrête pas là. Ces matériaux, déjà connus et aimés du scribe, Jésus les agence d'une façon radicalement nouvelle. Certes, au temps de Jésus, il y avait déjà plusieurs docteurs juifs qui tentaient de rapprocher amour de Dieu et amour du prochain. Mais aucun, jamais aucun avant Jésus n'avait réuni ces deux passages bibliques pour y voir les deux principaux commandements. dans cet ordre, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et le second, tu aimeras ton prochain. Jamais personne n'avait présenté ses commandements dans cet ordre, et jamais personne n'avait osé les déclarer plus grands que tous les autres commandements, comme le fait Jésus. Jamais la parole de Dieu n'avait révélé cet unique double commandement qui est au cœur de la nouveauté chrétienne, à savoir, nul ne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, sans aimer son prochain. Et nul ne peut aimer son prochain sans aimer Dieu. Ce lien radicalement nouveau entre amour de Dieu et amour du prochain est si fort que plus tard, Paul n'hésite pas à les fondre en un seul. Un seul précepte, dit Paul, contient toute la loi en plénitude, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et de même l'apôtre Jean, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas ». Voilà la révélation de la nouveauté chrétienne dans les commandements. Or, loin de tiquer, loin de froncer les sourcils, loin de s'offusquer, le scribe approuve de tout l'élan de son attirance vers le bien, vers le vrai. « Fort bien, dit-il, maître, tu dis vrai ». Et non content de répéter tout ce que Jésus avait dit, les commandements du Deutéronome et du Lévitique, il y ajoute un autre verset de l'Ancien Testament qui permet d'expliciter ce que Jésus venait de révéler de nouveau. « L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, dit le scribe, cela vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Osée avait déjà présenté ce petit verset, mais le scribe le fait pour déployer cette primauté de l'amour du prochain, indissociable de l'amour de Dieu, par rapport à tous les autres commandements, y compris par rapport à toutes les règles sacrées en Israël, du Shabbat, du culte, des sacrifices, des lois de pureté rituelle, tout cela passe après. Et bien, grâce à son dialogue, le scribe avance à grands pas dans la découverte de la nouveauté chrétienne. Pourtant, il n'est pas encore arrivé, il ne va pas encore jusqu'au bout. Et le dialogue tourne court, ou plutôt, le dialogue prépare une autre étape, plus intérieure, à laquelle Jésus invite le scribe. Qu'est-ce que lui répond Jésus en effet ? Magnifique réponse de Jésus. Il ne lui dit pas « Bravo, tu as tout trouvé, arrête-toi là ». Non, non, qu'est-ce que dit Jésus ? « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Qu'est-ce à dire ? Tu n'es pas loin, certes, tu brûles, mais tu n'y es pas encore. Jésus n'explicite pas ce qu'il reste à faire, hein, il ne l'impose pas au scribe. Il laisse le scribe découvrir lui-même la dernière étape, le dernier pas qu'il devra franchir librement du plus profond de son cœur. Et quel est ce pas qui fait qu'il n'est pas encore dans le royaume ? Quelle est cette porte d'entrée qu'il n'a pas encore franchie ? C'est la foi en Jésus. C'est de reconnaître Jésus comme le Messie, comme celui qui vient établir le royaume de Dieu, comme celui qui, en sa personne, est le royaume de Dieu, celui sans lequel on ne peut pas entrer dans le royaume, celui à qui il faut s'attacher en réserve pour devenir membre du royaume. En effet, le dialogue, selon Jésus, ne vise pas à parvenir à une sorte de transaction par laquelle chacun concède quelque chose à l'autre. Ça, c'est le dialogue mondain. Chacun fait un compromis pour permettre de s'entendre sur un terrain minimal, à demi-mesure. Non, non, le dialogue évangélique, selon Jésus, vise une seule chose, conduire chaque homme à la plénitude de la vérité. Et cette vérité ne se trouve nulle part ailleurs que dans la personne de Jésus, Christ, Sauveur. Dialoguer pour Jésus, c'est conduire les hommes à lui, non pas les conduire nulle part ou dans une impasse, les conduire à lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et y conduire avec douceur, avec progressivité, avec respect, avec attention, en s'appuyant sur les désirs les plus profonds et les plus purs, plus ou moins enfouis dans le cœur de chacun, dans des cœurs plus ou moins dociles à la grâce. la grâce qui seule permet de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu Sauveur. Eh bien, c'est ce combat spirituel, combat vers la foi, chemin de conversion vers le bien divin qu'est le Christ, qui se joue maintenant dans le cœur du scribe, qui est le but du dialogue, qui se joue dans le cœur de chaque homme appelé à rencontrer le Christ. Or, jusqu'ici, l'horizon religieux du scribe, qui était un chemin fervent et droit, se bornait au commandement « aimer Dieu, aimer son prochain ». Mais les commandements, fussent les deux principaux, c'est déjà très bien de les avoir dégagés, ne suffisent à rien, n'ont jamais suffi et ne suffiront jamais à conduire à la perfection. Aucun homme en Israël, et moins encore parmi les païens, n'a jamais pu aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et encore moins aimer son prochain comme soi-même. Oh, des velléités sans doute, du zèle, mais jamais du succès, jamais la perfection, toujours l'échec entraîné par le péché, de sorte que Dieu semble commander l'impossible. Et c'est bien pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Père a envoyé le Fils dans notre chair pour que dans notre chair, comme l'un de nous, il réalise à la perfection ce double commandement qui n'en est qu'un, de l'amour de Dieu et du prochain. Par amour pour le Père, pour Dieu, Jésus a obéi jusqu'à la mort et lui seul a su obéir à Dieu. Par amour pour le prochain, il s'est fait pauvre, il s'est humilié jusqu'à la mort, de manière à pouvoir sauver tous les hommes sans exception. Pour cela, il s'est laissé mettre à mort et a laissé couler de son côté transpercé l'eau et le sang de la vie éternelle, répandus pour la multitude. Et c'est pour autant que nous nous laissons chacun greffer sur le Christ par la foi, pour autant que nous devenons participants de cette vie nouvelle, que nous devenons enfin capables d'avancer réellement sur le chemin de perfection de l'amour de Dieu et du prochain. En dehors du Christ, sans le Christ, l'amour risque bien de devenir un slogan vide, une sorte d'idéologie trompeuse. Pourquoi ce lien indissociable entre les deux amours de Dieu et du prochain ne se trouve réalisé en vérité que dans le Christ? Parce que l'amour sauveur de Dieu en Jésus s'est porté et se porte sans cesse sur tous les hommes, sans exception, de sorte que nul ne peut prétendre aimer Dieu sans entrer à son tour dans la dynamique de l'amour envers le prochain, ce prochain que Jésus a tant aimé et pour lequel il s'est livré. Mais nul ne peut faire cela en dehors de la foi en Jésus, en dehors de l'amitié avec Jésus. Amitié dans laquelle Jésus nous communique, jour après jour, par un dialogue incessant, toutes les richesses de sa miséricorde envers Dieu et envers le prochain. Alors, frères et sœurs, dialoguer, oui, il le faut, mais ne nous trompons pas de dialogue. Priorité pour chacun de nous, d'abord, à entretenir le dialogue intime avec Jésus, afin d'entrer plus profondément chaque jour davantage dans la foi, dans l'amitié avec lui. Et alors, pour autant que jour après jour, Jésus nous rend capables d'entrer davantage dans l'amour de Dieu et du prochain, notre témoignage se portera de lui-même vers les autres dans un dialogue de douceur, de bienveillance, de patience, jamais de violence, jamais de contrainte, toujours respectueux du chemin de l'autre, en favorisant, sans jamais forcer, la reconnaissance de Jésus comme le seul sauveur de tous les hommes, le bien parfait qui seul peut nous rendre un jour parfait. Ainsi soit-il.